Chapitre 4. Manifestement, en ce début de lundi matin, la seule chose que son intuition disait à l'officier de police Sylvie Monin était qu'elle n'avait pas assez dormi. Réveillée à 4 heures du matin par son fils sourd et muet de 5 ans qui, debout devant le lit conjugal, la tirait par la manche, elle avait mis quelque temps avant de comprendre qu'il était angoissé par un cauchemar. Le temps de le calmer, de le recoucher, d'attendre qu'il s'endorme, elle était complètement réveillée et n'avait pu se rendormir, passant la fin de la nuit à ressasser des problèmes auprès de son mari qui dormait en ronflant. Et maintenant assise dans le bureau de boulanger avec Preux et le Mailleux, malgré le café fort et brûlant qu'elle buvait à petites gorgées, elle avait bien du mal à se concentrer sur cette nouvelle affaire de meurtre qu'exposait son chef. Sylvie Monin avait 37 ans. Née Le Brice, cette rennaise d'origine, cherchant après une licence de sociologie un domaine où elle pût mettre en pratique ce qu'on lui avait enseigné, avait songé à la police et avait tenté le concours d'officier. Brillamment reçue, elle avait choisi la criminelle. Entre-temps, elle avait rencontré son mari, jeune architecte dans un cabinet lillois, et l'avait suivi dans le Nord. De lieutenant, elle était passée capitaine et, depuis 2 ans, travaillait avec Boulanger dont elle était l'adjointe. Malgré la charge de travail que lui demandait l'éducation de ses deux garçons, notamment du deuxième qui nécessitait une attention particulière, elle n'avait pas voulu renoncer à son métier. Au demeurant, l'aurait-elle désiré qu'elle n'aurait pas pu. Le salaire de son mari, soumis aux fluctuations des commandes, ne suffisant pas aux besoins du ménage. Le métier aléatoire de son époux avait quand même un bon côté. Il lui donnait des disponibilités. Utile par exemple quand il s'agissait de récupérer les enfants après l'école. En tout cas, la difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle, la patience dont elle devait faire preuve quotidiennement avec son fils handicapé, l'avait rendue à la fois compréhensive et pragmatique, qualité dont se réjouissait Boulanger. Celui-ci l'avait mise au courant des circonstances du crime et des premiers éléments de l'enquête. Elle avait parcouru les journaux locaux qui, sans en faire leur titre principal, signaler le meurtre à la une. L'article de La Voix du Nord, rédigé par Claire Louvier, était sobre. Il se contentait de rapporter les faits et indiquait en conclusion que l'enquête avait été confiée au SRPJ. Il était accompagné d'une photo de la Villa Louise. L'article de Nord et Claire, écrit par Roger Debout, était à peu près identique. Monin secoua la torpeur qui l'envahissait et se força à écouter Boulanger. « Je suis allé voir tout à l'heure le commissaire Zenkin pour faire le point sur l'enquête, » disait celui-ci. « Vu les nombreuses incertitudes qui la caractérisent actuellement, cela n'a pas pris beaucoup de temps. Comme d'habitude, le patron nous laisse une grande autonomie, sous réserve de le tenir informé régulièrement du résultat des investigations. Pour l'heure, en attendant les rapports des scientifiques et du légiste, il faut nous polariser sur les témoignages. Je resterai ici avec Patrick pour établir la liste des invités à convoquer et coordonner les dépositions. Vous, Frédéric, vous irez à la Villa Louise entendre Madame Tillier qui va mieux. Ensuite, vous pourriez aller voir cette journaliste de La Voix du Nord. Peut-être lui sera-t-il revenu en mémoire quelque chose qu'elle aurait remarqué. Profitez-en pour jeter un coup d'œil sur ces photos. Vous pensez que sur l'une d'elles figure un homme ou une femme portant le badge Claude Gauvin et agitant une pancarte « Ça sent le roussi pour Roussel ?» demanda le Mailleux. Tous sourirent. « Quant à vous, Sylvie, » reprit Boulanger, « vous vous rendrez à l'imprimerie Tillier. J'ai pris rendez-vous. Jean Tillier vous y attend, ainsi que sa collaboratrice, Georgette Lecoeur. Tâchez tous les deux, » conclut-il en regardant successivement Preux et Monin, « d'en savoir plus sur la personnalité de Barbara. » Accompagné du gardien de la paix Léniel, Preux ne mit que quelques minutes pour aller du SRPJ à la Villa Louise. En ce milieu de matinée, il faisait déjà plus de 28 degrés. L'après-midi serait caniculaire, comme la veille. Léniel gara la voiture à l'ombre sous les arbres. Une femme de chambre leur ouvrit, quelques secondes après leur coup de sonnette, et les introduisit dans le bureau où Preux, la veille, avait reçu les témoins. Rebecca Tillier apparut presque immédiatement. Elle avait le bord des yeux rouges, comme quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Son teint était chiffonné et Preux n'aurait su dire si c'était la conséquence de son malaise ou d'une mauvaise nuit. Malgré tout, il lui trouva encore beaucoup d'allure. Comme Claire Louvier la veille, il fut surpris de sa ressemblance avec Barbara. Après avoir prononcé les condoléances d'usage, il expliqua les raisons de sa venue. Madame Tillier pouvait, par son témoignage, contribuer à l'arrestation du meurtrier de sa sœur. Pendant tout ce préambule, elle resta silencieuse, hochant seulement la tête de temps en temps. Puis Preux entra dans le vif du sujet. Madame Tillier, tout en m'excusant par avance de la peine que vous risquez d'éprouver au rappel d'événements douloureux, je voudrais évoquer avec vous la journée d'hier. Et tout d'abord, qui a eu l'idée des badges pour les invités? Si Rebecca fut surprise par la question, en tout cas, elle ne le montra pas. Mademoiselle Lecœur, l'assistante de mon mari, elle a suggéré que, puisque l'on fêtait les 70 ans de l'entreprise, il serait judicieux et amusant de distribuer ces badges à l'en-tête de l'imprimerie. Mon mari a approuvé l'idée. Et vous? Elle hésita un moment, cherchant ses mots. Personnellement, je considérais cette idée comme assez puérile, dit-elle avec une moue de mépris. Je pensais que les invités ne trouveraient pas si drôle de devoir faire la queue pour qu'on inscrive leur nom sur le badge, ni de devoir déambuler tout l'après-midi avec. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est produit, car rapidement des invités l'ont ôté ou perdu. On a retrouvé près de votre sœur un badge au nom de Claude Gauvin. Connaîtriez-vous quelqu'un de ce nom? Rebecca réfléchit un instant, comme si elle passait en revue toutes ses connaissances, puis hocha négativement la tête. Ce nom ne me dit rien, mais je dois vous préciser qu'il y avait beaucoup de monde et que mon mari, ma sœur, et peut-être même Mademoiselle Lecœur ont eu loisir, comme moi, de rajouter des noms sur la liste. Pendant que Léniel tapait consciencieusement la réponse, Preux poursuivit. Autre chose, Madame Tillier. Durant la fête, avez-vous remarqué quoi que ce soit d'anormal concernant votre sœur? Rebecca secoua la tête d'un air navré. Dès le début, j'essayais de seconder mon mari du mieux possible. De ce fait, j'ai été amené à discuter avec un certain nombre d'hommes politiques et de clients de l'entreprise, tout en gardant un œil sur le service. Vous comprendrez donc que j'ignorais ce que faisait Barbara jusqu'à ce que. Elle s'arrêta, déglutit difficilement. Oui, encouragea Preux. On a déjà dû vous le dire. À un certain moment, nous qui nous trouvions dans le jardin de derrière avons eu notre attention attirée par une dispute entre ma sœur et. Elle sembla hésiter sur le mot employé. Et un de ses amis. Qui était cet ami? Madame Tillier rougit. Je ne sais plus. Peu de temps après, tout s'est mis à tourner autour de moi. Je discutais sur cette pelouse en plein soleil depuis longtemps, j'ai eu un malaise. Un médecin de nos amis, présent à la réception, prétend qu'il s'est agi d'un début d'insolation. Preux jugea inutile d'insister. Étant donné le nombre de témoins de l'incident, il aurait facilement le renseignement. Que s'est-il passé alors? Vous êtes-vous évanoui? J'ai failli. Quelqu'un m'a retenu. On m'a entraîné à l'ombre. J'ai repris un peu de mes esprits, mais je me sentais très mal. Une de mes belles-sœurs m'a accompagné dans ma chambre et est restée près de moi, même après la venue du docteur. Si bien que vous n'avez pas entendu les cris de Mademoiselle Fougaille. Non, je devais somnoler. Je n'ai su que plus tard par Jean. Son regard s'embuait. Preux laissa passer un instant, puis reprit d'une voix douce. Madame Tillier, pouvez-vous me parler de votre sœur? Rebecca resta silencieuse, les yeux dans le vague, comme si elle n'avait pas entendu la question. Puis, au moment où Preux allait la réitérer, elle se mit à parler d'une voix lasse. Barbara est née à Calais, comme moi. Notre père, originaire d'Amiens, s'y était fixé quand il avait trouvé du travail au port. C'est dans cette ville qu'il a rencontré notre mère, une Anglaise, qui traversait pour la journée. Le coup de foudre a été réciproque. Elle est revenue plusieurs fois, puis 6 mois plus tard, définitivement. Ils se sont mariés. Je suis né l'année d'après. Un frère aurait dû voir le jour 2 ans plus tard. Mais ma mère a fait une fausse couche peu avant le terme. Puis Barbara est née. C'est ce qui explique qu'il y ait 6 ans entre nous. Malgré cet écart, nous nous entendions bien, et notre enfance, je crois, était heureuse. Mais ma mère est morte brusquement d'une embolie. Barbara, qui n'avait pas encore 14 ans, est restée à Calais avec mon père, tandis que je partais pour Lille, l'année suivante, avec un BEP de secrétariat. J'ai pu trouver rapidement du travail. J'ai loué un appartement assez grand où Barbara est venue me rejoindre à 17 ans, après le décès de notre père. Il y a 8 ans, après 2 autres postes, je suis entré à l'imprimerie Tillier. J'y ai rencontré Jean, que j'ai épousé. Barbara ne pouvait payer seule l'appartement. Comme vous l'avez peut-être vu, la maison est très grande. Elle est donc venue habiter ici avec nous. Rebecca avait énoncé cette dernière phrase sur le même ton, comme si elle évoquait une situation banale. Celle-ci pourtant ne semblait pas si naturelle que cela à Preux, quand il l'imaginait. Comment chaque membre du trio vivait-il cette cohabitation? Il constata soudain que son interlocutrice avait cessé de parler et le regardait curieusement, tout comme Léniel qui attendait, les mains levées au-dessus du clavier. Il se racla la gorge, grogna un « Excusez-moi », peu intelligible, et reprit ses questions. Elle ne travaillait pas. En arrivant à Lille, elle a commencé un BEP secrétariat à Notre-Dame-d'Année, mais elle n'a pas vraiment accroché et elle a abandonné avant l'examen. Après, elle a exercé différents emplois. Je ne vous garantis pas l'ordre, dit-elle avec un geste évasif, mais elle a été caissière en grande surface, vendeuse dans une parfumerie, opératrice téléphonique dans une société de crédit. Elle a travaillé aussi un moment comme secrétaire à l'imprimerie. Bref, pensa Preux, toujours aussi peu enclin à la tendresse envers les gens huppés. Rien de solide. Pouvez-vous me renseigner sur ses relations? Barbara était très gaie. Je la revois encore riant tant et plus lorsque nous avons fêté ici ses 30 ans il y a 2 mois. Elle aimait s'amuser et sortait souvent dans les boîtes de nuit, ici ou en Belgique. Elle connaissait sans doute beaucoup de monde, mais elle en parlait peu ici. Ne se confiait-elle pas à vous? Comme je vous l'ai dit, lieutenant, j'ai 6 ans de plus que Barbara. Vous pouvez donc en déduire mon âge, dont je n'ai pas honte, dit-elle en fixant Preux d'un air de défi. Vous comprendrez qu'à 36 ans, avec 2 enfants en bas âge et une grande maison à tenir, je ne fréquente pas les bars et les dancings. J'étais proche de ma sœur, mais je n'étais ni sa confidente ni son chaperon, poursuivit-elle d'une voix vibrante de colère qui surprit Preux. Non, pour ces fréquentations, il est préférable que vous vous adressiez à Mademoiselle Fougaille, qui était sa grande amie et pourra sur ce point vous renseigner bien mieux que moi. Elle s'était un peu radoucie, mais sa bouche gardait un pli amer. Preux posa encore quelques questions, puis prit congé. Dehors, le soleil avait tourné, et la voiture n'était plus protégée par les arbres. Dans l'habitacle, la chaleur était étouffante. Pendant que Léniel le ramenait à la PJ, Preux restait songeur. Incontestablement, Madame Tillier aimait sa sœur. De plus, elle avait un alibi inattaquable pour l'heure du meurtre, si la présence de sa belle-sœur à ses côtés était confirmée. D'où lui venait alors cette impression bizarre qu'il avait ressentie à certains moments de l'entretien, en particulier à la fin, lorsque Rebecca Tillier s'était brusquement emportée?